Le Carduelis est un genre de passereau de la famille des Fringillidae. C'est aussi le nom d'une association basée en Creuse, à Peyrat-la-Nonière. La cardère sauvage est une espèce de plante herbacée de la famille des Caprifoliacées. Elle est aussi appelée cabaret des oiseaux, cardère à foulon, bonnetier sauvage ou chardon à bonnetier. Et c'est aussi le nom de la revue naturaliste éditée par l'association Carduelis. Carmen Munoz-Pastor et Vincent Primo sont aujourd'hui dans les studios de Radio Vassivière pour nous parler de l'une et l'autre. Bonjour à vous.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très très bien.
Très bien.
La route a été bonne depuis Peyrat-la-Nonière ?
Oui, oui, sans problème, il n'y a pas encore de neige.
Alors on vous accueille aujourd'hui à l'occasion de la sortie du numéro 3 de la revue La Cardère consacrée au renard roux. Le premier numéro est sorti en février 2016, c'est ça, donc en hiver. Est-ce que vous en faites un par saison ?
Alors la volonté au départ, oui, effectivement, c'était de se dire qu'à long terme, on souhaitait éditer un numéro par saison. Au moment du lancement, on ne savait pas du tout comment le public allait recevoir la revue. Est-ce que nous, par rapport à nos activités annexes, on allait réussir à éditer de manière saisonnière la revue. Là, depuis le début de l'année, on en a fait trois. Effectivement, une en hiver, une au printemps et là, à l'automne. Donc vraiment, on va essayer de faire ça.
Une revue au rythme des saisons. Le second numéro, c'était sur quel sujet ?
Sur le lézard des murailles.
Le lézard des murailles. Et alors du coup, la revue porte un nom de plante, mais elle se concentre pour le moment sur des animaux. Ce sera uniquement sur des animaux ?
Non, le but, ça peut être des animaux, des végétaux, un peu tout, des insectes. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est parti sur des sujets assez fédérateurs, puisque la revue n'est pas très connue. Enfin, pour faire connaître la revue, il nous fallait des sujets qui portent un peu donc la buse variable. Le lézard, tout le monde connaît, tout le monde le voit, mais personne ne sait vraiment comment ça vit. Et puis le renard roux, pareil. Donc après, quand la revue sera un peu plus connue, on espère faire des sujets un peu moins connus, pour le coup.
Avec potentiellement des plantes
Des plantes, des papillons, des...
Et des lieux aussi, des milieux. On a pour prévision de faire un numéro sur l'étang des Landes, juste sur la réserve naturelle de l'étang des Landes, qui se trouve donc dans le nord-est de la Creuse. Et ce serait vraiment pour décrire un milieu, les espèces qui y vivent, autant animales que la flore.
La revue, c'est quand même beaucoup de travail. Donc c'est 40 pages, en tout cas celle sur le renard roux. Je ne sais pas si c'est un étalon que vous vous êtes donné ou...
À peu près, oui, ça devrait plus trop augmenter maintenant.
Il y a des illustrations de beaucoup de natures différentes, des photographies, et elle est à un prix très 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 abordable, donc 2,50 €. Il faut vraiment être passionné pour faire ça. Comment, par exemple, pour le numéro du renard roux, comment vous travaillez ? Il y a beaucoup d'angles. Par exemple, si on regarde le sommaire du numéro sur le renard roux, donc il y a un chapitre, un dossier très très complet sur son habitat, son alimentation, ses périodes de reproduction, vraiment l'animal. Il y a un dossier sur le renard dans la littérature. Enfin, vous avez des angles très différents. Comment vous travaillez ?
Ben, au départ, on choisit des espèces. Nous, on est naturalistes depuis longtemps, de façon passionnée, en fait. Au départ, notre association, on réalise des documentaires animaliers. Donc, pour l'instant, on est à 3 films, en fait. On est en train de finir le 4e. Et parallèlement, on s'est mis à faire cette petite revue pour faire quelque chose de plus local. Et donc, c'est des sujets qu'on connaît bien. Par exemple, la buse variable, ça fait 20 ans qu'on fait de l'ornithologie. Donc, en fait, on a de la bibliographie déjà énormément, on a des données, on connaît les gens qui travaillent dessus. Donc, et puis après, on rajoute, oui, dans la littérature. Donc en fait, on sait à peu près comment aborder chaque sujet, où aller chercher les informations.
Ensuite, il y a aussi le fait que, par exemple, pour la buse, ça a été... Enfin, moi, je suis arrivée en Creuse il y a 6 ans et demi maintenant. Et c'est vraiment un oiseau que j'ai beaucoup découvert ici. Et Vincent, qui est très ornithologue, donc de formation, du coup, on a associé tout ça pour décrire une espèce qui était très commune. Et avec l'envie de, justement, de prendre différents points de vue pour montrer aux gens qu'à travers la littérature, sur le terrain, ou de manière plus documentée, on pouvait découvrir une espèce et à travers aussi les photos, c'est vraiment, et c'est au gré aussi des sujets choisis. La buse, au départ, on est parti, c'était 24 pages parce que on avait l'envie de faire des entretiens, de présenter des associations locales, de décrire l'espèce, tout ça. Et puis après, le lézard, c'est vrai que on est aussi des littéraires. Par le fait qu'on est naturaliste, on est aussi très littéraire, et du coup on avait eu envie de donner une approche littéraire aussi de l'espèce. Et sur le renard, ça c'était l'évidence, quoi, qu'il fallait continuer à
J'ai pas eu le temps de lire le renard dans la littérature. Du coup, vous êtes allé piocher par où? Piocher vers où? Là, je pense aux fables, par exemple, au renard, qui apparaît beaucoup dans les femmes.
Mais... Oui, et puis beaucoup, principalement dans le Petit Prince, avec le renard, évidemment.
Et le roman de renard, également, qui est vraiment l'œuvre phare qui a fait qu'on appelle le renard roux aujourd'hui le renard, qui est... L'ancien français, en fait, l'appelait le goupil. Et c'est vraiment le roman, donc toutes ces fables qui ont été écrites au fil des siècles, en fait, qui s'est avéré donner le nom. C'était un personnage au départ, le roman de Renard. Renard était un personnage. Et c'est devenu, du coup, dans la langue, il est devenu tellement connu et tellement apprécié du public que le goupil est devenu le renard. Qu'on connaît aujourd'hui.
Et puis le renard, par exemple, dans les différents thèmes, on a aussi choisi le renard par rapport au fait que c'était l'ouverture de la chasse, on peut le dire quand même, et qu'il y a pas mal de choses qui nous gênent un peu sur la pseudo-gestion du renard, d'une espèce emblématique comme celle-là, au niveau soit des pullulations, enfin de tout ce qu'on entend sur le renard, on s'est dit qu'il fallait quand même expliquer un peu mieux les choses.
Oui, j'ai pu lire du coup dans la revue un passage sur le mythe ou pas du renard mangeur de poules, dont on dit qu'il mange des poules, certainement parce que après analyse de l'estomac du renard, on y trouve des poules, surtout lorsqu'il a été tué alors qu'il pénétrait d'un pays ou dans un poulailler.
Oui, et puis c'est cette généralisation aussi, c'est... Par exemple, la buse variable, c'est pareil. On a choisi parce que les gens voient beaucoup, beaucoup de buses, donc ils vont très vite conclure qu'il y a trop de buses, alors que c'est totalement l'inverse. Si il y a plein de buses, c'est que le milieu est bon. Donc en fait, on essaye aussi de passer ça. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ces espèces soient regardées autrement que à travers des fusils, un 4x4, le dimanche matin, et des discussions... sans vraiment connaître l'espèce, en fait. Donc, on n'a pas la prétention de tout savoir, mais on veut un autre regard, on veut donner un autre regard sur ces espèces.
Et c'est vrai que la revue, elle est née aussi de cette constatation-là, de voir qu'en discutant vraiment avec les gens, on se rendait compte, c'est vraiment pour la buse, c'était très flagrant de dire, oui, moi je vis en Creuse, on discutait avec les gens, je vis en Creuse depuis 20 ans, et ils étaient incapables de reconnaître une buse. La buse est très variable de par son plumage, donc on peut voir des buses extrêmement blanches, des buses extrêmement marrons, et vraiment les gens et des publics très différents, que ce soit chez les jeunes ou chez les gens plus âgés, on a vraiment constaté qu'il y avait une méconnaissance sur les espèces, et on s'est dit justement prendre des espèces communes et essayer d'informer au mieux, avec nos connaissances. Effectivement, on prétend pas tout savoir, mais en tout cas en allant chercher l'information, en essayant de la diffuser auprès du grand public, et d'où le prix également qu'on a souhaité être le plus abordable possible pour que le plus grand nombre puisse avoir accès à la revue. Ouais.
Vous êtes naturaliste depuis 10 ans, de ce que vous disiez. C'est de formation, c'est par passion, c'est
Un petit peu des deux. Moi, j'ai une formation naturaliste que j'ai fait à Neuvic, au lycée agricole. Et sinon, j'ai travaillé dans ce milieu pas mal, enfin dans le milieu de l'ornithologie. Et puis après, par passion, on peut dire qu'on fait ça un peu toute l'année, en fait. On voyage pour ça, on fait des films là-dessus.
Oui, on en parlera peut-être un petit peu après. Pour ce qui est de la revue, on revient à la revue. Là, sur le Renard Roux, Carmen, c'est vous qui avez écrit les textes. Vincent, vous avez fait les photographies, des dessins. Vous aussi, Carmen, d'ailleurs. Mm-hmm. Le dessin, c'est une part importante du travail du naturaliste ?
Ça peut être très important, mais nous, c'est pas quelque chose qu'on a développé au niveau naturaliste. On le fait pour le plaisir. Après, c'est vrai que ça peut, hein, par rapport aux oiseaux sur le terrain, prendre des notes, faire des croquis. Il y a beaucoup de naturalistes qui le font, oui.
On présente dans le numéro sur le renard un homme qui était naturaliste et qui a passé sa vie justement à dessiner, à sculpter les animaux. C'est un homme qui s'appelait Robert Hénard et qui a écrit donc ce qui est la référence en termes de, on va dire, d'encyclopédie, les mammifères sauvages d'Europe. Il a décrit absolument toutes les espèces de mammifères en Europe durant toute sa vie, et il les a, lui, sa manière de travailler, c'était vraiment d'aller sur le terrain et de croquer donc les instants d'observation. Donc voilà, ça passait par le dessin. Nous, on travaille différemment. Nous, on observe beaucoup. On filme aussi parce que c'est notre métier, c'est notre passion. Et après, le dessin, c'est parce que tous les deux, depuis toujours, on a développé ce goût aussi pour le dessin, et on le fait vraiment par passion. Ouais.
Du coup, c'est du dessin de mémoire ou du dessin vraiment d'observation dans la nature
Non, là c'est dessin d'après photo, en fait.
Ouais, souvent d'après photo, d'après des reproductions.
Mais ça rend en tout cas le déroulé de la revue très agréable. D'avoir en tout cas...
En tout cas, on a aussi une jeune femme qui participe aussi à la revue depuis le deuxième numéro, parce que nous, on avait lancé un appel aussi aux gens qui voulaient participer, et c'est toujours d'actualité. Toutes les personnes qui souhaitent même nous proposer un article, nous proposer des photos, des dessins. Et justement, c'est une jeune femme qui s'appelle Charline et qui, dès le deuxième numéro, nous a contactés en nous disant que sa passion, c'était dessiner. Et donc, elle nous a proposé... le dessin qui est en quatrième de couverture de la revue sur le lézard est d'elle, et dans le troisième numéro également il y a un dessin d'elle, une gravure. Donc voilà, c'est aussi une revue qui a envie de fédérer la population locale, et de proposer à chacun de participer à un projet qui se veut collectif, quoi.
Est-ce que vous accepteriez de me lire un extrait, je ne sais pas, quelque chose que vous auriez envie de lire d'une des revues pour les auditeurs de Radio Bassivière?
Peut-être le premier texte, en fait, qui a été édité tout simplement sur la buse variable, pour donner une idée. Donc en fait, on édite parfois des extraits de textes littéraires ou de... Voilà, ou des poèmes aussi qu'on trouve sur les espèces. Et puis là, c'était un texte qu'on avait écrit sur la buse. Donc, il s'appelle « Un matin du mois de janvier ». L'aube s'est éveillée bien calme et froide en ce nouveau mois de janvier. Quelques arpents de neige ont surpris nos petits yeux encore emplis de sommeil, tandis que sur la mangeoire dansent déjà les petites mésanges et la vive citelle. Au loin, au fond du champ, dans le grand silence des neiges, se dresse le grand chêne, le majestueux. Lui, qui durant les belles saisons accueille nombre d'hôtes des alentours, se retrouve bien esselé au milieu de ce bal de flocons. C'est alors qu'un grand rapace se pose discrètement sur l'une de ses branches. Il s'ébouriffe, cache l'une de ses pattes, gonfle son plumage et s'immobilise. Le temps de la douce attente est venu pour la buse variable.
La première page de la revue sur le renard roux, c'est aussi un moment d'observation comme ça, que pour le coup vous avez laissé à des gens. Je ne sais pas si ce sont des lecteurs de la Cardère ou dans quel contexte vous les avez rencontrés, mais peut-être vous pouvez nous en lire un ou deux extraits.
Lire un ou deux extraits. Oui, alors, c'est des lecteurs en fait de la Cardère.
Alors juste pour expliquer le principe, c'était sur l'idée, on avait envie de faire participer les lecteurs donc de la revue, ceux qu'on connaissait. Donc on avait relevé, parce que beaucoup de gens nous avaient contactés, notamment par mail, donc sur notre adresse directement. Et donc nous, on a conservé les adresses. Et donc quand la revue paraît, donc on envoie un petit mail en disant aux gens qui sont plus intéressés de nous le signaler. Et là, on avait eu cette idée-là de dire, on va les faire participer en leur demandant, parce que le renard, c'est quand même une espèce qui est passée. Facile à observer ou alors ça va être de manière très succincte, donc on avait envie de demander aux gens est-ce qu'ils avaient déjà vu le renard.
Alors il y a le texte de Charlotte de Saint-Victor-en-Marche qui est assez joli. Bien sûr, je l'ai vu le renard un jour dans la lumière du soleil couchant aux abords d'un champ de maïs. Un couple roux, queue enlacée, regardait l'horizon côte à côte. On aurait dit qu'il parlait d'amour. C'est joli.
C'est beaucoup trop joli. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Charlotte n'a pas pu voir ça. C'est vraiment trop magnifique.
Mais en tout cas, c'était chouette de pouvoir faire participer les habitants de la région. Et chacun y a mis vraiment sa touche personnelle. Et on sent le vécu derrière. Et ça, c'était... quelque chose de chouette à recueillir, ouais.
Comment passer de l'émerveillement qu'il y a à croiser une espèce, soit à pied dans la forêt, soit même parfois en voiture, à cette démarche vraiment d'aller la chercher, de se renseigner plus, de se dire « allez, on va aller faire des relevés ». Qu'est-ce que c'est que ce petit pas en plus?
C'est difficile à expliquer, je pense que ça s'appelle la passion tout simplement. En fait, quand on s'intéresse aux animaux, on fait pas mal de photos aussi, donc il y a un moment où on a envie de faire une belle photo par exemple d'un renard, si on attend, on n'y arrivera jamais, donc on repère un peu où se trouve un renard, on monte un affût, on attend et voilà, la démarche a commencé, en fait. Une fois qu'on y a pris goût, en général, on continue.
Et ensuite, il faut aussi, dans un monde qui va bien trop vite, et quand on a la chance, justement, de vivre à la campagne, il y a l'observation, justement, des espèces animales demande de la patience, quoi, demande une exigence d'attente. Et c'est à tout ça qu'on voudrait inviter, en tout cas, les lecteurs de la Cardère, c'est se dire que c'est une chance, quoi, de pouvoir observer une espèce, de voir une buse, de pouvoir observer son comportement, d'observer un lézard, aussi commun que ça puisse être, aussi, tout le monde voit des lézards au printemps, mais c'est de prendre le temps, en fait, et découvrir que ça peut être un émerveillement, justement, on revient d'un petit parcours où on a observé le renard à deux reprises, en train de chasser, en train de se balader. Et ça procure du bonheur, et ça, il faut le savoir, quoi. Voilà.
Si je peux me permettre un petit souvenir personnel, je me souviens d'une fois où j'étais immensément triste et où juste la contemplation d'un escargot en train d'avancer sur un tuyau d'arrosage m'a empli de bonheur pour pas mal d'heures après.
Ça fonctionne.
Ah oui, ça fonctionne.
C'est vrai qu'il suffit parfois simplement d'aller marcher, avec une paire de jumelles ou pas, d'aller marcher une demi-heure, et puis finalement on va s'apercevoir, on va croiser un petit bruant, une hirondelle, n'importe quoi, on aura pensé à autre chose si on a des soucis, c'est pour ça que le monde est beau, hein, c'est en observant beaucoup.
Est-ce que vous savez d'ores et déjà quel sera le prochain animal élu pour la revue?
Ce sera la chevêche d'Athéna, qui est une petite chouette qu'on peut observer un peu partout en Limousin. Et c'est un rapace nocturne, mais qu'on peut très souvent observer de jour. Donc on avait fait un rapace diurne avec la buse variable. Et là, pour l'hiver, on s'est dit, on va proposer un rapace nocturne.
Là, d'autant plus au niveau du format, une revue, un animal. Je pense qu'on vous l'a répété, re-répété. Moi, je me souviens de la hulotte de mon enfance. Et je me demandais si vous aussi, la hulotte dans votre enfance, et comment était née votre passion de naturaliste, en fait.
Comment c'est né ? Alors ça, c'est difficile à expliquer, hein, parce que c'est depuis, vraiment tout petit. Mais par contre, oui, la hulotte, ça, c'est une référence. D'ailleurs, on les a contactés. On a eu quelques contacts avec eux par rapport à un film. Et alors après, c'est pas tout à fait le même principe, mais c'est exactement le même état d'esprit.
Oui, la hulotte, c'est peut-être plus tourné vers les enfants.
Voilà, ouais. C'est plus... encore plus vulgarisé, on va dire. Mais c'est... c'est la référence, évidemment.
Et vous lisiez la hulotte, enfant ?
Pas enfant, mais un peu plus grand. Ouais, et là, on est abonné, évidemment.
On est abonné, on la reçoit, voilà. Chaque fois qu'il y a une parution, on continue à la recevoir. Ah oui.
D'ailleurs, on a le même principe de ne pas avoir, notamment, une publication établie, en fait. Ça sort quand ça sort. La hulotte, c'est la même chose, quoi. Quand on est abonné, on attend et un jour ça arrive. Et c'est un bon principe, on trouve.
Des belles surprises, du coup.
Oui.
Et pour vous, Carmen, du coup, cette observation de la nature, ce goût pour la découverte de ce qu'il y a autour de nous, c'est né quand ?
Bah pareil, moi, ça vient du fin fond de mon enfance. Bah, je crois que tous les enfants aiment les animaux, en grandissant, je me suis un petit peu... Moi, j'ai vécu un peu à la ville, enfin, dans un petit village quand j'étais enfant. Donc, d'où ce goût, je pense, pour la nature, les animaux. Et en grandissant, moi, j'ai plus vécu à la ville et j'ai pris un parcours un peu différent de celui de Vincent parce que je me suis lancée dans les tournages de films, donc notamment pour la télé, enfin, des courts-métrages... Et en fait, pendant quelques années, moi, je me suis un petit peu éloignée de tout ça parce que, voilà, j'étais plutôt dans toute cette carrière de tournage de films en tant que technicienne et avec toujours l'envie, de revenir à mes sources, quoi, le besoin de nature, le besoin de... Et donc, j'y suis revenue petit à petit. Et donc, au moment où on s'est rencontrés avec Vincent, ça a été vraiment le déclencheur du fait que, qu'on avait envie de faire des films ensemble et... Voilà, c'est...
Est-ce que les films sont arrivés en même temps que l'association Carduelis ou est-ce que c'était deux choses séparées ou...
Non, on a créé l'association pour faire les films, en fait. Pour avoir une structure de production, enfin, avoir un cadre officiel, quoi, un cadre légal. Mm-hmm. On a créé l'association Carduelis au moment où on est en train de réaliser le premier film, en fait.
C'était en quelle année ?
On l'a créé en 2010.
Et alors, le premier film, c'était sur quoi
Alors, le premier film, bah, du coup, c'est très éloigné de la Creuse, puisque c'était en Afrique. C'était sur les éléphants. Et en fait, parce qu'on s'est rencontrés en Afrique avec Carmen. On s'est rencontrés au Mali. Et l'histoire locale a fait qu'on a eu envie de faire un film sur la faune de là-bas. Et donc, on a créé l'association, on a investi dans du matériel, on est retourné là-bas et on a tourné ce film. Et suite à ça, ça a plutôt bien fonctionné. On a continué, on s'est dit on va en faire d'autres.
Voilà. Comment il s'appelle ce film en question, le premier ?
Il s'appelle Wobgo.
Comment ça s'écrit ?
W-O-B-G-O.
Wobgo. Et pourquoi ?
Alors, c'est le nom de l'éléphant en langue maoré, c'est une langue du Burkina Faso. Et donc voilà, c'est une réserve, c'est un film sur une réserve au Burkina Faso qui, c'est le côté, comment dire, c'est le côté plus esthétique en fait, par rapport à Lacardère qui va être assez pointu sur l'explication des choses. Dans nos films en général, il n'y a presque pas de commentaires et c'est vraiment l'esthétique qui prime. Donc...
La contemplation, quoi. On propose vraiment d'observer la nature telle que nous, on a la chance de l'observer quand on voyage ou quand on se balade. Et c'est comme ça qu'on avait envie de proposer aux gens de redécouvrir ou de découvrir la nature. C'est en l'observant et en la contemplant, en se rendant compte que ce qu'on a autour de nous, c'est... voilà, c'est beau et qu'il faut savoir en profiter, quoi.
Vous tournez du coup avec un matériel assez léger. Comment, qui tient la caméra?
Ah bah ça c'est nous deux.
Les deux.
Ouais, ouais. Là c'est vraiment tout fait à deux, le son, l'image, une partie du montage. Enfin c'est vraiment un travail à deux, quoi. Après oui, il y a pas de l'un de nous qui filme plus ou moins, voilà.
Et comment vous avez choisi? Est-ce que vous avez fait, du coup, est-ce que le tournage a correspondu à un seul voyage? Combien de temps ça a duré?
Alors pour ce tournage, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc on s'est rencontrés là-bas, on voyageait en fait, on s'est retrouvés dans une réserve au Burkina avec des éléphants. C'était des personnes avec qui on a beaucoup sympathisé, on est retourné souvent là-bas, mais ils n'avaient pas de support. Pédagogique en fait pour les enfants, pour expliquer que eux, malgré toutes leurs difficultés, ils arrivaient à conserver des éléphants, alors que c'est très compliqué dans leur façon de vivre. Il suffit de voir combien il nous reste d'ours en France, eux y arrivent quand même. Et donc en fait à la base on est retourné là-bas, on est resté 2 mois à peu près pour filmer, pour leur redonner ce film en fait. On est retourné l'année d'après avec le film. On a acheté des lecteurs DVD, on a distribué le film un petit peu partout. Et maintenant, le film, il est là-bas, il fait sa vie, il sert de support à des animations, enfin voilà. Donc en fait, au Burkina, on y retournait pas mal de fois, mais par rapport au film, on a tourné en 2 mois, voilà, à peu près.
Ça fait beaucoup d'heures de contemplation, j'imagine.
Mmh. Ah oui, beaucoup, oui.
Vous aviez choisi une saison particulière par rapport à la vie de l'éléphant?
On avait... Non, ça s'est fait vraiment en fonction de nos disponibilités, parce qu'on a des vies professionnelles à côté, et c'était pendant la saison des pluies, en fait, donc c'est la saison où la savane est très arborée, c'est très vert là-bas, donc ça pouvait être aussi plus compliqué, notamment pour les éléphants, de les observer, et ça n'a pas été le cas. Vraiment, on a eu beaucoup de chance, on a eu la confiance aussi des personnes qui travaillaient là-bas, qui nous ont vraiment laissé faire... Vraiment en grande confiance et voilà, on est très heureux de ce qu'on a pu amener.
Ça donne envie de voir le film parce que c'est vrai que quand on a des images d'éléphants dans la savane, en général elle est toute jaune et
c'est
sec. C'est peut-être une saison qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on n'est pas un grand globe-trotteur.
Oui,
non, c'est vrai que c'est des images, ça surprend des fois ouais, les gens, parce que du coup, là, à ce moment-là, c'est très très vert. Le film, il est dans pas mal de médiathèques de Creuse, et sinon, nous, en tant qu'association, on le vend à prix libre, en fait. Donc, on a un site internet, hein, il suffit de taper « Association Carduelis » sur internet, et puis vous tombez sur notre site, et puis voilà. Donc, c'est pareil, c'est le même esprit au niveau associatif, les DVD... On les vend tous à prix libre, quoi. Pour. Voilà, chacun selon ses moyens ou sa volonté.
Les autres films, peut-être un peu plus rapidement, où se déroulent-ils et sur quel.
Alors, le deuxième, en fait, s'appelle La Curée des Fauves. Et c'est un film qui s'est tourné vraiment par le plus grand des hasards. C'était au cours d'une balade qu'on était allé faire dans les Pyrénées-Atlantiques. Du côté de la vallée d'Aspe et de la vallée d'Ossau. Et en fait, on part toujours avec notre matériel. Justement, la légèreté fait qu'on peut, le charger dans la voiture. Et en fait, c'est au cours d'une balade, on s'est rendu compte de par, premièrement, l'odeur et ensuite de voir en fait, des vautours fauves en fait, qui descendaient dans la forêt. Et on a constaté qu'éventuellement, il y avait peut-être une curée qui se déroulait pas loin.
Mais qu'est-ce qu'une curée ?
Une curée, oui, une curée, donc c'est le moment, en fait les vautours fauves est une espèce nécrophage et donc il se nourrit uniquement de cadavres d'animaux morts et la curée c'est le moment où vraiment tous les vautours vont descendre, eux ils passent leur journée en fait à survoler les territoires à la recherche de nourriture et c'est le moment où ils vont découvrir une carcasse justement et aller s'en nourrir. Donc ça donne lieu à un événement qui s'appelle une curée où tous les vautours sont dessus et c'est
ils
un spectacle.
Ils curent les os en fait à la fin.
La curée c'est quand ils se jettent tous dessus, quand ils sont une centaine sur le cadavre. Voilà. C'est ce qu'on appelle la curée.
Ça doit être très impressionnant.
Oui, et puis là, on était vraiment très, très proches. Là, on a eu une chance formidable.
Et ça se déroulait vraiment, ça s'est déroulé au cœur d'une forêt. Donc, pareil, c'était assez rare parce que c'était un endroit qui n'était pas très découvert et où une vache venait de donner vie à un petit veau. Et donc, voilà, on a pu observer tout ça. On est resté pendant une semaine, tous les matins, on se rendait sur les lieux, on attendait que les vautours arrivent. Et voilà, il y avait des jours où ils venaient, des jours où ils ne venaient pas. Et ça a donné lieu donc à un film qui fait une vingtaine de minutes, qui n'a aucun commentaire oral. Voilà, c'est des images, du son. Et le film avait été sélectionné au festival de Ménigoute, le festival ornithologique de Ménigoute, qui est un des plus gros festivals européens animaliers. Et il avait été présenté là-bas, donc on était très heureux voilà.
de pouvoir le montrer.
Ah oui. Et pareil, on peut le trouver dans certaines médiathèques ici en Creuse. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est un appel aussi aux médiathèques du département, même du Limousin, quoi. Si y a des médiathèques qui sont intéressées pour proposer que ce soit les DVD ou les revues à leur public. Enfin, c'est vraiment aussi notre démarche, quoi. On a envie que nos œuvres soient aussi montrées au plus grand nombre. Et par le prêt, c'est vraiment un biais qui nous semble très chouette.
Oui. Du coup, il y a la revue, les films. Est-ce que l'association Cardualis a d'autres activités ?
Non, pas exactement. Enfin,
J'ai cru voir quelque part que vous faisiez des présentations parfois.
Oui. Ah oui, 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 oui. Ça, oui. Ah oui, oui, on en fait même pas mal. Enfin, on tient des stands. On va participer au bistrot d'hiver dans le 26 février. Et voilà, oui, on fait quelques. Alors aussi, on a fait des projections, par exemple, dans des maisons de retraite. Ça, c'est très très intéressant aussi, parce que c'est un public. On a même une dame qui était aveugle, qui a assisté à la projection, donc qui a tout fait par le son. Après, on a les ressentis de ces gens. Enfin, c'est voilà, on fait pas mal d'animations comme ça. Mais disons que ça tourne autour, oui, des films et de la revue pour l'instant, sachant que. Qu'on travaille aussi chacun de notre côté, donc on aimerait bien, nous, oui. Pouvoir faire que ça et faire plus. Mais...
Bah, vous avez déjà, vous donnez déjà l'air d'y consacrer pas mal de temps. Quelles sont vos activités professionnelles à côté, si ce n'est pas indiscret ?
Moi, je travaille dans un verger, donc je fais la taille des arbres l'hiver, par exemple, et puis donc la récolte plus tard, donc en fait, ça laisse pas mal de temps libre sur l'année. Bon, c'est saisonnier, quoi.
Et moi, je suis technicienne caméra, en fait, sur des tournages de films. Donc, j'ai le statut d'intermittente, ce qui me permet de travailler une petite partie de l'année. Enfin, ouais, une petite partie de l'année et de pouvoir consacrer, justement, du temps à nos activités annexes. Et c'est vrai que le but final, ce qu'on aimerait vraiment, c'est de pouvoir vivre justement de notre activité associative et de plus être obligé de travailler pour vivre, quoi.
En tout cas, d'ores et déjà, votre manière de fonctionner m'apparaît être un modèle intéressant.
C'est le début.
Pour le moment, où est-ce qu'on trouve la revue ?
Et beaucoup dans le territoire, justement, nous, on est, donc, comme on est basé dans le nord-est, on la trouve dans beaucoup de petits villages, notamment Évaux-les-Bains, Chambon-sur-Voueize, Chénérailles, donc c'est des petits villages dans le nord-est, mais aussi dans des villes, donc Aubusson, Feltin, Guéret, La Souterraine, mais aussi dans le Palestel, qui est plus au nord, Boussac, qui est aussi une grosse ville plus au nord. Et vers ici, c'est plutôt vers Bourganeuf, justement. Il y a la librairie de la Maison de la Presse de Bourganeuf. Et on revient là tout juste d'Desmoutiers, donc dans la Haute-Vienne, où on a déposé aussi des revues à la librairie Passe-Temps. Et à Ussel, en Corrèze, donc Ussel et Neuvic, en Corrèze, où on peut le trouver en librairie, en Maison de la Presse.
Et on est en train de voir avec le parc 2000 vaches pour faire un dépôt à la maison du parc. Mais on ne sait pas encore.
On attend.
Il y a aussi les librairies peut-être de Feltin et d'Aubusson.
Il y a les librairies d'Aubusson proposent... donc il y a la librairie La Licorne qui propose la revue. Il y a une bouquiniste aussi, Au Petit Bonheur, qui propose la revue. Le magasin bio.
Feltin, c'est à la ressourcerie.
À la ressourcerie, oui. Voilà.
Est-ce que vous faites du coup quand même un important travail de vulgarisation, mais assez pointu. Ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec un membre du groupement mammalogique et herpatologique du Limousin, qui se posait la question de savoir comment faire de la médiation justement autour des espèces qu'on croise. Je me demandais si vous travaillez comme ça avec des acteurs institutionnels du territoire. Vous parliez du parc, mais...
Oui, bah, en fait, on est adhérent d'ailleurs du GMHL. Et par exemple, pour la cardère sur le lézard, à chaque fois, dans chaque cardère, il y a une interview de quelqu'un qui travaille sur l'espèce qu'on parle. Et donc là, c'est l'interview de quelqu'un qui travaille au GMHL, dans le numéro sur le lézard. En fait, après, on participe de façon bénévole, par exemple, à la CEPOL. Enfin, on fait des relevés ornitho, des choses comme ça, mais c'est... en dehors de l'association Carduelis.
On va peut-être redonner le site internet et puis le contact de l'association. Est-ce que vous avez quand même des choses à rajouter avant ça ?
Non, rien de particulier, à part qu'on invite tous les gens à profiter du lieu où on habite, parce que le Limousin, c'est quand même un chouette endroit, donc profiter de tout ça.
Comment vous êtes arrivé en Limousin ?
Par hasard, vraiment, gros hasard. Ce serait long à expliquer.
D'accord.
Mais il n'y a pas que le Limousin, hein. Y a beaucoup de coins très intéressants. Mais c'est plutôt la démarche, en fait. Alors après, chacun vit comme il veut, mais c'est vrai que le monde n'est pas magnifique partout et pour tout le monde. Donc nous, on a beaucoup, beaucoup de chance en France. Et donc voilà, il faut en profiter... d'un côté non marchand, en fait. Là, il n'y a rien de plus gratuit que la nature. Donc, il faut en profiter.
Comme vous le disiez, la France, c'est vaste et beau. On peut conseiller la lecture de la cardère à des personnes qui ne résident pas en Limousin ?
Bien sûr, bien sûr. C'est déjà le cas. D'ailleurs, il y a des gens de passage en vacances dans le Limousin qui nous ont contactés, justement, pour recevoir la revue. Pour le moment, on propose des espèces qui sont extrêmement communes en Limousin, mais aussi ailleurs. Et si la revue propose des données locales, justement, de population, de gestion, entre guillemets, elle est aussi très suffisamment large, du moins, pour que partout en France, on puisse apprécier, oui.
J'ai peut-être une question sur, justement, ce mot de gestion. Vous avez dit gestion avec...
Oui, des guillemets.
Oui, des guillemets à peu près. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot pour y mettre des guillemets ?
Ben, on se méfie un petit peu du mot gestion parce qu'il appartient... Alors, ce n'est pas un acharnement, hein, mais il appartient beaucoup au domaine de la chasse, c'est-à-dire de la volonté de l'État de tout gérer. Alors, c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans le numéro sur le renard. C'est qu'il n'y a pas des espèces nuisibles et des espèces utiles selon une classification par rapport à l'homme, malgré ce que pensent beaucoup de personnes. En fait, la gestion, c'est par rapport à un bénéfice ou à un soi-disant problème que nous poserait une espèce. Donc le mot gestion, il nous gêne un petit peu. Je ne sais pas si je suis très clair. En fait,
par gestion, il y a cette idée de régulation de l'espèce et voilà. Donc de forcément...
De régulation, mais par rapport à un souci uniquement humain, en fait. Là, on cite Robert Reynard beaucoup dans cette revue. C'était quelqu'un qui avait une vision naturaliste de la nature, c'est-à-dire la nature le plus sauvage possible. Par exemple, nous, on a énormément de regrets de ne pas croiser des loups en Limousin, même si on espère que ça arrivera bientôt. Et c'est quelque chose qui en soi, ne poserait pas énormément de soucis, sauf si l'homme réellement veut y voir un problème. La nature sauvage, en fait, on ne la croise plus beaucoup en France, et ça nous gêne un peu. Et c'est de la gestion, en fait.
C'est un peu militant comme revue, non ?
Ça oui,
ça se veut. C'est vrai que là, il y a tout un article de réflexion sur la chasse. Nous-mêmes, donc on a contacté la Fédération départementale des chasseurs de la Creuse pour ce numéro, parce qu'on avait envie, donc comme on propose toujours un entretien, jusque-là on l'avait fait auprès des associations locales, dont la CEPOL, donc pour les oiseaux, le GMHL pour le lézard, pour les reptiles. Et donc là, on a contacté une association nationale qui s'appelle l'ASPAS, qui est l'association pour la protection des animaux sauvages, et donc qui défendent farouchement les animaux dits nuisibles. Et on a eu envie de croiser certains regards, et on s'est dit justement, pour ouvrir le débat et pour donner aux gens l'occasion de voir les différents points de vue, parce que selon où on se place, et on reçoit des informations différentes. Et par exemple, moi je me dis que moi j'ai eu un papa qui était chasseur quand j'étais enfant. Quand on a été enfant de chasseur, on a un point de vue, et c'est le point de vue du chasseur qui va dire que le renard, il faut le tuer parce qu'il est nuisible, parce qu'il va provoquer des maladies, tout ça. Donc ça, c'est un regard. Et nous, on a eu envie, justement, donc c'est pour ça qu'on a contacté aussi la Fédération de chasse, de montrer comment chacun voit les choses et pourquoi on agit comme ça, pourquoi on protège, pourquoi on décide de tuer. Voilà, chacun. Et à chacun de se faire son opinion. Nous, effectivement, on a la nôtre, et c'est une revue naturaliste. Nous, on est des défenseurs de la nature et de la nature sauvage. Et effectivement, on a des choses à dire sur ce qu'on pense de la chasse, et dans des territoires qui sont... et dans un pays où la chasse a un poids, et notamment politique... On a eu envie de dire des choses.
Oui, parce que dans le mot gestion, pour finir, c'est devoir trouver une utilité à un animal pour le protéger. C'est-à-dire, alors si on la cherche pour le renard, on va la trouver parce que il consomme énormément de rongeurs. Et il y a pas longtemps des invasions de rongeurs, en fait. Et après, on balance des produits parce qu'il n'y a plus assez de prédateurs. Enfin, c'est le renard est utile. Mais même dans ce sens-là, si le renard n'était pas utile, on aurait besoin du renard quand même. Ce serait la phrase classique. À quoi sert le renard ? À rien, comme Mozart. Et pour donner une image qui parle, c'est comparer en fait une prairie remplie de fleurs sauvages à une pelouse tendue avec des tuyas, voilà. Le mot gestion, il inclut qu'on a une pelouse avec des tuyas et qu'on trouve ça plus beau. Mais est-ce que c'est mieux en soi ? C'est pas certain. Voilà, c'est une vision. Hein. On dit pas que c'est la bonne. Hein.
En tout cas, on propose de choisir son point de vue.
Et ça, c'est déjà assez riche. Un bel effort, donc.
Oui, oui. Et aussi, si je puis me permettre, c'est dans la revue, il y a aussi l'idée d'essayer d'éradiquer un peu les fausses rumeurs, les fausses pensées qu'on peut avoir sur certaines espèces. Pour la buse, c'est vrai que longtemps on a cru que qu'elle tuait les poules, si elle survolait les poulaillers, c'était uniquement pour tuer les poules, alors que c'est une espèce qui est incapable de tuer une poule, et c'est pas du tout sa nourriture. Pour le lézard, c'est pareil, j'entendais encore des histoires totalement incongrues sur la façon dont sont perçus le lézard des murailles, qui est une espèce totalement inoffensive. Il y a encore des idées, parce que c'est un reptile, parce que c'est un animal à sang froid. Enfin voilà, il y a encore plein d'idées qui sont répandues dans des vieilles légendes, des vieilles croyances. Alors le renard, n'en parlons pas. Donc c'est rétablir certaines vérités, et pas se laisser convaincre par des choses anciennes, des choses la connaissance, de connaître une espèce, de connaître son alimentation, de savoir son comportement, à quelle période de l'année elle a des jeunes, à quelle période de l'année, c'est primordial, en fait, de connaître, ça permet d'apprécier. Et malheureusement, quand on ne connaît pas et puis qu'on se laisse convaincre par les dires des uns et des autres, C'est aussi la proposition de la revue, c'est de permettre de connaître un peu mieux pour mieux aimer, quoi. Et ça nous paraît important.
Alors, du coup, comment contacte-t-on l'association Cardio-Hélice et si on veut se s'abonner peut-être à la Carder?
Alors, en fait, on n'a pas de système d'abonnement encore parce que c'est pas régulier la parution et que c'est le troisième numéro. On ne savait pas si ça allait fonctionner assez pour en faire d'autres. Donc, voilà. Et le plus simple, c'est donc notre site internet. Simplement, c'est une adresse à rallonge, c'est très long. Donc, il faut taper Association Cardio-Hélice sur...
un moteur de recherche.
Voilà. C'est ce qui sort en premier. Et dedans, tout est expliqué, les dépôts-ventes, enfin les endroits, notre adresse, le téléphone, les contacts, les actualités, voilà. Tout est sur ce site.
On peut peut-être donner juste notre adresse mail, parce que c'est le contact peut-être le plus évident aujourd'hui. Donc c'est Cardu-Hélice, donc Cardu-Hélice, @laposte.net. Voilà, et puis on peut nous envoyer un mail pour avoir des renseignements, pour commander, voilà.
Carmen et Vincent, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à bientôt pour un nouveau numéro.
Merci.